Cours de spiritisme du Centre Spirit Lyonnais Alan Kardec. Première année. Cours numéro 5. Guide. Esprit familier. Prière. Tout le monde a entendu parler de son ange gardien, ou en a vu des représentations artistiques. Certains en parlent, d'autres préfèrent se taire, mais la majorité des gens y croient. Le guide. Le mot « ange » est emprunté du grec et est formé de « angelos » qui signifie « le messager ». C'est un être spirituel, intermédiaire entre Dieu et les hommes, un esprit protecteur d'un ordre élevé. Sa mission est celle d'un père qui veille sur ses enfants. Il conduit son protégé dans la bonne voie, il l'aide de ses conseils. Il le console dans ses afflictions et le soutient dans les épreuves de la vie. Il est attaché à lui depuis la naissance jusqu'à la mort, et souvent il le suit après la mort dans la vie spirite. Souvent, il l'accompagne dans plusieurs existences corporelles, car ses vies sont bien courtes par rapport à la vie de l'esprit. Il est obligé de veiller sur lui, parce qu'il a accepté cette mission. Il a le choix des êtres qu'il va devoir accompagner. Pour les uns, c'est un plaisir, pour d'autres, une mission ou un devoir. Nous avons tous un guide. Il y a une certaine affinité entre le guide et son protégé. Cette affinité les rapproche l'un de l'autre et favorise leur rapport. L'aide du guide spirituel. Tout comme nous, il éprouve des sentiments. Il est heureux quand nous répondons à sa sollicitude. Il gémit quand il nous voit succomber et suivre une mauvaise route. Alors il s'éloigne, car il voit que ses conseils deviennent inutiles. Il ne nous abandonne pas complètement, et il revient dès qu'on l'appelle. L'incarné sortira de ce moment d'épreuve plus parfait et plus instruit. Notre guide nous influence, car il jouit de qualités que nous ne pouvons comprendre. Il voit ce que nous faisons, il connaît même ce que nous voulons lui cacher. Aucun acte, aucune pensée ne peut lui être dissimulée. Il plaint nos travers qui retardent nos progrès. Son aide n'est pas forcément celle que nous attendons. Son action est souvent occulte, afin que nous prenions l'initiative d'agir. Pour évoluer, il faut acquérir de l'expérience, et donc souvent apprendre à nos dépens. Tout est toujours bien réglé de manière à nous laisser notre libre arbitre, car si nous n'avions pas de responsabilité, nous n'avancerions pas dans la voie qui doit nous conduire vers Dieu. Le guide n'est pas toujours près de son protégé, car il est des circonstances où sa présence n'est pas toujours nécessaire. Pour les tâches quotidiennes, les esprits familiers prennent souvent le relais. Voir le livre « Après la mort » de Léon Denis, chapitre 35, « La vie supérieure », pour avoir plus de renseignements sur le sujet. Comment le reconnaître? Il n'a pas de nom particulier, car il a vécu de nombreuses vies avant de devenir guide. On peut lui donner le nom que l'on désire. Il viendra toujours à cet appel. Il faut de nombreuses années pour reconnaître l'approche de son guide. On le confond souvent avec les esprits familiers. Ce sont, en général, de douces impulsions qui confirment son arrivée. Cependant, nous pouvons dire que notre guide intervient pour répondre aux questions que nous nous posons. On peut parfois le confondre avec nos propres idées. Il est ce qu'on appelle la voix de la conscience. Il nous aide à élargir l'étude de nos recherches et de nos connaissances. Il nous aide pour l'éducation des enfants, pour les connaissances professionnelles ou pour un développement personnel sur un plan littéraire ou scientifique. Il peut, par exemple, nous mener sur la voie pour exercer un métier qui nous convient ou vers une formation au bon moment. Il nous aide également à élargir nos connaissances artistiques, comme la musique, la peinture, l'écriture, la sculpture ou les connaissances spirituelles. Un père, un grand-père ne peut pas devenir un guide. Il faut un certain degré d'élévation que l'on n'a pas encore lorsque l'on est sur Terre et que l'on a encore à s'améliorer. Pour plus de renseignements, voir le livre des esprits d'Allan Kardec, chapitre 9, Intervention des esprits dans le monde corporel, question 489, Les anges gardiens. Comment entrer en contact avec lui? Pendant le sommeil, nous ne restons pas inactifs. Les liens qui nous unissent au corps sont relâchés et notre esprit peut parcourir l'espace et entrer en relation directe avec d'autres esprits. Si notre désir est de progresser, nous pouvons dialoguer avec notre ange gardien. Cette situation nous permet de nous instruire. Il nous montre le travail à effectuer et nous donne toujours toute l'énergie nécessaire à son accomplissement. Il nous encourage à la volonté, à la persévérance et nous fortifie dans notre lutte. Il peut nous prévenir sur ce que nous serions capables d'effectuer dans une démarche envisagée ou entreprise. Parfois, à notre réveil, nous en avons le souvenir, ou alors il revient au moment opportun comme une inspiration du moment. En résumé, pour communiquer avec son guide, c'est très simple. Il suffit de demander, de prier, puis d'écouter sa conscience. Les autres esprits. Divers rapports nous lient avec des esprits que nous pouvons avoir autour de nous. Les esprits instructeurs. Lorsque nous avons une tâche particulière à remplir, comme celle d'un médium, d'un peintre, d'un musicien, ils viennent vers nous par similitude de goût et de sentiment dans le bien. La durée de leur relation est presque toujours subordonnée aux circonstances. Les esprits familiers sont les membres de notre famille, de cette vie ou d'autres vies, mais du côté invisible. Ils sont liés à nous et peuvent nous aider. Les esprits imparfaits, ce sont ceux qui sont attirés par nos imperfections, nos fluides, nos habitudes, etc. Exerce-t-il une influence sur notre vie? Les esprits instructeurs n'agissent jamais en dehors des lois de la nature. Ils aident à la mise en place de certaines rencontres, mais leur action sur la matière est limitée. Ils soufflent des inspirations et des solutions à nos problèmes. Les esprits familiers ont une influence non négligeable sur notre vie quotidienne, comme peuvent le faire des personnes physiques de notre environnement, car ils nous aiment et désirent notre bonheur. Ils s'occupent volontiers des détails de la vie intime, mais n'agissent que par ordre ou permission des esprits protecteurs. Ils arrivent parfois qu'ils peuvent se transformer en véritables esprits obsesseurs, tant leur amour déborde. Les esprits imparfaits sont moins avancés et ils interviennent très souvent. Ils se sentent indispensables et pensent que leur aide est essentielle. Au cours d'une vie terrestre, ils sont des milliers à nous solliciter sans cesse et c'est à travers un apprentissage que nous pouvons repousser ces intrus. Pourquoi les esprits imparfaits nous sollicitent-ils? Tous les esprits n'ont pas une perception juste de la vérité et de la science. La supériorité intellectuelle et morale ne s'obtient que par un travail lent et continu, par l'accumulation de progrès réalisés au cours d'une longue série de siècles. L'esprit désincarné se retrouve au-delà de la mort, tel qu'il s'est fait lui-même pendant son séjour ici-bas. Il n'est ni meilleur ni pire. Pour dompter une passion, corriger un défaut, atténuer un vice, il faut parfois une existence entière ou plus. Il en résulte que beaucoup d'esprits, comme beaucoup d'hommes, restent tourmentés à cause de drames ou de résolutions non prises. Se complaisant dans la matière, ils se mêlent à notre vie, ils participent à nos activités et se sentent unis par des analogies de caractère ou d'habitude. Parfois, ils cherchent à dominer et subjuguent les personnes faibles qui ne savent pas résister à leur influence. Pour cela, ils agissent sur les fluides en les manipulant comme on manipule des gaz, avec l'aide de la pensée et de la volonté. La pensée et la volonté sont aux esprits ce que la main est à l'homme. Pour la pensée, ils impriment à ces fluides telle ou telle direction. Ils les agglomèrent, les combinent ou les dispersent. Ils en forment des ensembles ayant une apparence, une forme, une couleur déterminée. Ils en changent les propriétés en les combinant suivant certaines lois. Quelquefois, ces transformations sont le résultat d'une intention, car il suffit à l'esprit de penser une chose pour que cette chose se fasse. Ces esprits imparfaits sont des instruments destinés à éprouver la foi et la constance des hommes dans le bien. Nul esprit ne reçoit la mission de faire le mal. Quand il le fait, c'est de sa propre volonté et par conséquent, il en subit les conséquences. Dieu peut le lui faire pour vous éprouver, mais il ne le lui commande pas et c'est à vous de le repousser. C'est ainsi que Dieu laisse à notre conscience le choix de la route que nous devons suivre et la liberté de céder à l'une ou à l'autre des influences contraires qui s'exercent sur nous. Il faut s'affranchir de l'influence des esprits qui sollicitent nos mauvaises pensées. Il est de notre devoir, lorsque l'on est instruit de l'existence du monde spirituel, d'être attentif à nos pensées, afin que des esprits ne soient pas attachés à nos désirs ou attirés par leurs idées. En faisant le bien et en mettant toute votre confiance en Dieu, on repousse l'influence des esprits inférieurs et on détruit l'emprise qu'ils voulaient prendre. Gardez-vous d'écouter les suggestions des esprits qui suscitent en vous de mauvaises pensées, qui soufflent la discorde entre vous et qui excitent en vous toutes les mauvaises passions. Méfiez-vous surtout de ceux qui exaltent votre orgueil, car ils vous prennent par votre faiblesse. Voilà pourquoi Jésus vous fait dire dans l'oraison dominicale « Seigneur, ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. » Les symptômes. Lorsque nous éprouvons un sentiment d'angoisse, d'anxiété indéfinissable sans cause connue, on peut dire que vous avez une connexion à votre insu avec un ou plusieurs esprits. Des sensations les plus diverses peuvent se développer, des maux de tête, des maux de ventre ou diverses douleurs. Si les symptômes sont plus importants, dans le cas d'esprits perturbateurs, on parle alors d'obsession, de fascination ou de subjugation. Dans l'obsession, l'individu est poursuivi avec ténacité par un esprit dont il n'arrive pas à se débarrasser. Dans la fascination, l'esprit a une action directe sur la pensée et produit une illusion qui paralyse le raisonnement. Dans la subjugation, il y a une substitution, partielle ou non, d'un esprit errant à un incarné. Pour plus de renseignements, voir l'ouvrage de Marlène Nobré, Les masques de l'obsession. Qui est autour de nous? Petit graphisme. La prière. La prière est une invocation. par elle, on se met en rapport de pensée avec l'être auquel on s'adresse. La prière représente l'effort de l'homme pour communier avec l'invisible. Loin de consister en une simple récitation de formules, la vraie prière représente un état mystique où la conscience s'absorbe en Dieu. Cet état n'est pas de nature intellectuelle, il est l'effort de l'homme vers la foi et la croyance en l'aide supérieure. Le sens du beau et de l'amour ne demande aucune connaissance livresque. Seul le cœur parle. Les hommes simples sentent Dieu aussi naturellement que la chaleur du soleil ou le parfum d'une fleur. On peut prier partout, dans la rue, au travail, chez soi. On prie mieux quand on a établi le calme en nous-mêmes. Le calme intérieur dépend à la fois de notre état organique et mental et du milieu dans lequel nous sommes plongés. La paix du corps et de l'esprit est difficile à obtenir dans la confusion, le fracas et la dispersion. L'essentiel n'est pas de beaucoup prier, mais de bien prier. La puissance de la prière est dans la pensée. Elle ne tient ni aux paroles, ni au lieu, ni au moment où on la fait. La prière du cœur se fait avec foi, ferveur et sincérité. L'intention est tout. Par la prière, on peut louer, demander ou remercier. On prie pour demander de l'aide pour soi, pour attirer de bons esprits. On prie pour faire du bien à autrui. On prie pour aimer Dieu, pour se rapprocher de lui, pour communier avec lui. Voir le livre « Les prières » d'Allan Kardec. Un médium doit-il prier ? Le médium doit être une personne de prière pour se protéger de certains esprits et pour se rapprocher de son guide et d'esprits bienveillants. Chaque jour, il se réserve quelques minutes pour être seul et s'adonner à la réflexion. Il y cherche des forces et forge sa conviction personnelle par ses dialogues avec Dieu. Il assainit ainsi son atmosphère psychique en priant avec ferveur et en se protégeant des influences négatives, toujours à l'affût. Il ne croit pas que les esprits bienfaiteurs peuvent remplacer sa vigilance personnelle ou prendre des mesures qui sont de son entière responsabilité. La prière sera son appui dans la traversée des luttes quotidiennes et sa source permanente d'inspiration sur les sentiers étroits de l'existence. Le médium qui ne fait pas de la prière une habitude est semblable au vaisseau qui navigue sur des flots déchaînés, menaçant de l'engloutir à tout moment. Le médium qui désire aller loin dans sa tâche ne peut se passer de la prière. Auprès de Dieu, il peut confier ses plus intimes désirs. Que fait la prière ? Elle véhicule une ou plusieurs pensées. Le spiritisme fait comprendre l'action de la prière en expliquant le mode de transmission de la pensée. On peut prier pour qu'un être vienne à notre appel ou que notre pensée lui parvienne. Pour se rendre compte de ce qui se passe, il faut se représenter tous les êtres incarnés et désincarnés plongés dans le fluide universel qui occupe l'espace. Ce fluide reçoit une impulsion émise par la volonté. Dans cette impulsion, une pensée est émise et est dirigée vers un être quelconque, sur la terre ou dans l'espace, d'incarné à désincarné. Un courant fluidique s'établit de l'un à l'autre. La prière rend l'homme meilleur. Elle agit sur l'esprit et sur le corps. Elle donne de la force. Il est facile de connaître, dans une certaine mesure, son intensité. la manière dont vit celui qui prie peut nous éclairer sur la qualité des invocations qu'il envoie à Dieu. La prière nous permet d'être assistés par de bons esprits et de compter sur eux pour nous épauler dans nos épreuves. Ils viennent nous soutenir dans nos résolutions et nous inspirer de bonnes pensées. On acquiert ainsi la force morale nécessaire pour vaincre les difficultés et rentrer dans le droit chemin dont on s'est écarté. La prière nous éclaire sur nos fautes par son dialogue intérieur et cette recherche du perfectionnement. Elle lie les hommes entre eux par cette chaîne de solidarité qu'elle a pensée. Elle fortifie notre confiance en Dieu et nous rend plus humbles. Pour qui prier ? Pour les esprits souffrants. On leur témoigne ainsi de l'intérêt, on les incite au repentir et à l'action. On demande pour eux l'intervention d'esprits supérieurs ou amis capables de les aider. On prie pour être aidé par son guide ou des esprits supérieurs, pour se corriger d'un défaut, pour demander des conseils, pour être soutenu dans les difficultés, pour avoir une faveur, pour remercier de l'aide. On peut aussi prier avant de s'endormir, pour trouver des conseils, pour aller voir de bons esprits. On prie pour nos proches, pour nos amis, pour qu'ils reçoivent de l'aide, pour les malades.